Alors, ce deuxième psaume est, comme je viens de vous dire, est tellement important dans la parole de Dieu. Et c'est un psaume qui nous encourage. Et c'est bien parfois de simplement de s'arrêter, de faire un pas en arrière et d'essayer de voir la grande image, d'essayer de se dire, de voir tout ce que Dieu est en train de faire. Souvent, nous pouvons être complètement absorbés par nos épreuves et par les difficultés, et c'est bien de simplement arrêter et sachez que Dieu nous a dit dans le psaume 46, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Et c'est facile, nous pouvons être tracassés par la politique ou les problèmes dans le gouvernement, les soucis par rapport aux recherches que les scientifiques sont en train de faire. Parfois, on est découragé par un état financier qu'on a ou un problème familial. Même d'être immergé ou submergé dans les conseils des médecins et toutes les possibilités de traitement. Et parfois, on oublie, on néglige que c'est Dieu qui règne suprême dans le ciel et sur la terre. Il est toujours sur son trône. Il y a beaucoup de forces qui travaillent, qui sont au travail, qui tentent de détrôner Dieu dans notre vie. Chacun de nous est différent. Nous sommes à des différents degrés, on peut dire, différents niveaux dans notre soumission à Dieu et à sa volonté. Parfois, on peut être cédé à Dieu par rapport à notre santé. Mais c'est tout à fait inflexible concernant nos finances. Ou peut-être on a des autres qui sont faciles à céder un aspect de la vie, mais les autres aspects de la vie, ils trouvent tellement difficile. Ce qu'on doit faire dans ces cas, c'est de faire une marche en arrière, quelques pas, juste pour regarder encore notre Dieu. De réaliser que c'est lui notre Créateur. Il a le droit de faire ce qu'il veut avec notre vie. Et nous devons avoir une soumission totale, une confiance totale dans notre Dieu. Et c'est ça ce que ce psaume, le deuxième psaume, nous montre. Nous devons avoir une réponse à Dieu. Et cette réponse de l'homme doit être une soumission complète. Une confiance totale dans sa volonté. C'est ça la leçon de ce psaume. Nous allons essayer de regarder ce psaume verset par verset, mais une de ses clés, c'est de regarder les divisions de ce psaume, comme je viens de lire. On commence avec les mots de David, on a les mots des nations, on a le décret du Seigneur Jésus, on a les réponses du roi. Et de nouveau, enfin, le conseil de David. On commence alors avec les questions concernant la rébellion, versets 1 à 2. Vous voyez, ça se répète, ces questions, pourquoi? 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 Et on pose la question pour nous-mêmes ce matin, pourquoi la rébellion? Pourquoi les gens veulent insister à rebeller contre Dieu? C'est Dieu qui est au-dessus de tout. C'est Dieu qui est notre Dieu. Lutter contre Dieu, c'est une impossibilité, on peut dire. Il y a une certaine proverbe en Afrique. Est-ce qu'un œuf peut écraser une pierre? C'est ça, c'est impossible. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que tu peux réussir contre Dieu? Et parfois, le problème de la rébellion, c'est pas un désir de réussir, mais c'est le problème de penser que, voilà, on pense qu'on est plus intelligent que Dieu. Et on pense que, voilà, on sait mieux que Dieu ce qu'il faut faire. Et c'est là où on doit s'arrêter et complètement s'arrêter pour dire que non. Dieu connaît mieux. C'est lui qui domine, mais c'est lui qui est omniprésent, il est omniscient, il sait exactement ce qu'il faut faire. Souvent, je ne sais pas, pour ceux qui ont des enfants, On a certains enfants qui sont tellement rebelles, il y a des autres qui sont instantanément, ils sont soumis. Même dans notre famille, j'avais une enfant, si je le regarde avec les yeux un peu fermés, avec une voix un peu élevée, déjà elle va commencer à pleurer. Elle aime être soumise, elle n'a pas besoin, elle n'a pas un désir de se rebeller. Mais j'ai deux autres enfants, quand on s'élève, ils restent debout et ils disent non. Et même si je dis, vas-y, fais ceci, ils disent non et il faut la discipline à ce moment. Et tous les enfants sont différents. Je vous encourage à aider vos enfants de ne pas être des rebelles. Mais la façon de les discipliner est complètement différente. Mais il faut savoir qu'il y a une façon toujours d'aider vos enfants à obéir. C'est tellement important d'avoir un enfant qui obéisse et qui est soumise à ta volonté. Il faut qu'il voie les deux aspects, n'est-ce pas? L'aspect de l'amour que vous avez pour lui, mais aussi cet aspect que c'est toi qui devrais le diriger. L'enfant ne sait pas. Il peut avoir un moment où tu es devant la rue et tu demandes à ton enfant, mais arrête, ne traverse pas la route. Et il faut qu'il obéisse. S'il n'obéisse pas, ça peut être un problème, et ça peut être un accident, ça peut être d'autres choses. Aider nos enfants, c'est juste une illustration. Nous avons en nous tous ce cœur rebelle et on demande et on pose la question, pourquoi nous faisons cela? Pourquoi nous rebellons contre notre Dieu? Dans le texte, nous voyons la question, verset 2, pourquoi les rois de la terre se lèvent-ils? Et pourquoi les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son roi? Dans le Nouveau Testament, nous voyons l'application de ces versets et ça concerne Ponce Pilate et ça concerne les autres rois qui étaient là au moment de la crucifixion de Jésus. On voit tous les leaders religieux, les sacrificateurs, on voit les prêtres, on voit les leaders religieux, tout le Sanhédrin a fait une décision de crucifier le Seigneur Jésus. Et dans le Nouveau Testament, nous voyons l'application de ces versets. L'Éternel et son roi, c'est le Seigneur Jésus. Le roi ici, c'est ce mot messien. Et si vous voulez, vous entendez ce mot messie. C'est une traduction de ce mot en hébreu, messien. Et nous voyons la terre ici en train de soulever contre Dieu et contre son roi. Celui qui a été prophétisé depuis pour être le sauveur des nations, pour être le sauveur des peuples. Mais le peuple, les sacrificateurs, à cette époque où Jésus était crucifié, n'ont pas voulu que Jésus règne. Ils ont voulu eux-mêmes, ils ont voulu leurs propres idées régner, mais pas le Seigneur Jésus. Pour voir le contexte, vous pouvez aussi faire référence dans Actes chapitre 2 et Actes chapitre 4, où nous voyons ce verset cité. Mais continuons. Nous voyons l'expression de rébellion, verset 3, brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Alors, l'image ici, c'est le peuple qui semble être lié. Il parle des chaînes qui viennent de Dieu, qui viennent de sa parole, qui viennent de sa volonté. Et c'est vrai, Dieu exige certaines choses. Dieu a donné des commandements et il est notre créateur, il est notre Dieu, il a un droit de dire ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Et la rébellion de l'homme est contre cela. La rébellion de l'homme, ça dit non, brisons ce lien, délivrons-nous de leur chaîne. Alors, les liens des commandements de Dieu, les chaînes de sa volonté. Et ce que nous devons faire, c'est de simplement de s'arrêter et poser la question, mais pourquoi on est en train de vouloir lutter contre Dieu? pourquoi on est en train de vouloir aller contrecarrer au plan de Dieu et à sa volonté. C'est pas simplement avec nous, c'est au commencement. Même dans le livre de Genèse, nous pouvons voir ceci. Même avec la rébellion de Satan, avec la rébellion d'Adam et Ève, plus tard dans le jour de Noé, plus tard avec ceux qui sont rassemblés à Babel, pensez même au peuple élu de Dieu, sauvé par Dieu d'Égypte, mais encore ils sont des rebelles dans le désert. Ils ne veulent pas être soumis à Dieu. Et vous pouvez continuer à travers les Écritures et voir cette même histoire répétée. Et on pose la question pourquoi? Combien de fois les gens se révoltent contre Dieu et ils ne prennent pas la leçon que c'est Dieu qui est là, il a le droit de régner. Quelle est la réponse de Dieu? Nous voyons ça dans versets 4 à 6. Celui qui siège dans les cieux rit. C'est une rie, oui, mêlée de colère, mais c'est une rie, pas une rie de blague, mais une rie qui est en train de démontrer que voilà ce que l'homme est en train de faire, c'est inutile, c'est impossible même. Et on voit même cette idée, le Seigneur se moque d'eux, puis il part dans sa colère. Il les épouvante, rempli de frayeur, c'est-à-dire, il les remplit de frayeur dans sa fureur. Et il va souligner ceci, c'est moi qui ai roi, mon roi sur Sion, ma montagne sainte. À travers l'histoire, nous voyons les hommes en train de vouloir lutter contre Dieu et surtout lutter contre le fait que Jésus-Christ, il est le roi des rois. Surtout lutter contre le fait qu'il faut être soumise à un salut trouve seulement à travers l'œuvre de Jésus-Christ. L'homme se rebelle. L'homme dit non, je dois faire ceci, je dois faire ça pour être sauvé. Mais Dieu dit non, c'est à travers mon Fils Jésus-Christ que vous pouvez être sauvé. Et Dieu est en train de dire dans verset 6, c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. C'est comme le début de ces versets, c'est comme un coup de tonnerre, commentateur a dit. Le début de ce verset, c'est comme un coup de tonnerre, à la fin, l'éclair frappe. Et c'est ça qu'on voit. Dieu en train de dire que c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Les gens qui refusent le Fils, les gens qui ne veulent pas qu'il soit leur roi, les gens qui rejettent d'entrer dans le royaume de Dieu, dans le royaume de Christ, qui veut être toujours dans ce royaume de Satan, Dieu est en train de dire non, c'est moi qui ai oint mon roi sur ma montagne sur Sion. Sion, c'est la colline située près de Jérusalem. Et Sion, c'est alors un autre nom pour la ville de Jérusalem. Et on pose la question, mais quand est-ce que c'est passé ceci? Quand est-ce que Dieu a oint son roi sur Sion? Et les apôtres ont compris l'accomplissement de ces prophéties par rapport à Sion. Et nous voyons cela dans le Nouveau Testament. Pense à Jean 12, verset 15. Sois sans crainte, fille de Sion. Voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. Et vous vous souvenez, l'entrée triomphale de Jésus en Jérusalem. Et les apôtres, les écrivains du Nouveau Testament ont reconnu que c'était là où Jésus, en tant que roi, est venu à Sion. Mais nous voyons aussi que Jésus crucifié sur la croix, on voit encore, c'est lui le roi qui était là. Qu'est-ce que Pilate a écrit sur le panneau? Voilà le roi des Juifs. Ceci est le roi des Juifs. Et nous voyons à travers le Nouveau Testament, Jésus, c'est lui qui est reconnu comme ce roi. Depuis les mages qui ont dit « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Et jusqu'au gouverneur qui interrogea Jésus en tendre de lui demander « Es-tu le roi des Juifs ?» Et vous connaissez le roi la réponse de Jésus. Il a dit « Tu le dis », c'est-à-dire « C'est vrai ». Et nous voyons aussi, quand Jésus était sur le croix, les gens disaient « Salut, roi des Juifs !» Et à la fin, après la crucifixion, il y avait cette inscription qui était là. Ceci est Jésus, le roi des Juifs. Et après, on voit même un soldat en train de dire « Véritablement, c'était celui le roi, c'était celui le Fils de Dieu. » Jésus, notre roi. Jésus règne en tant que roi, même maintenant. Il est ressuscité, il est le roi des rois. Et ce que Dieu demande, c'est que les gens soient soumis à ce roi, qu'il accepte comme le Seigneur et Sauveur. J'aime ce psaume. J'aime ce psaume parce qu'il nous rappelle que peu importe les difficultés qui arrivent, peu importe les choses qui sont sur la terre, soit les incendies, soit les tempêtes, soit le tremblement, soit le COVID, soit la maladie, on a un Dieu qui règne et c'est Dieu, c'est Jésus qui règne au-dessus de tout. Et rien ne peut empêcher Dieu d'accomplir sa volonté. Il faut qu'on comprenne cela. Rien ne peut empêcher Dieu d'accomplir sa volonté. Les choses arrivent. Les accidents même, mais Dieu est là et il domine. Je vous encourage ce matin à travers cela et on continue versets 7 à 9. Nous voyons la réponse maintenant de Jésus. Versets 7 à 9, nous avons un changement de sujet et c'est Jésus maintenant qui parle, c'est ce roi qui parle et il parle d'un décret qui est publié. Un décret que Dieu a déjà fait concernant le Fils. Et il dit, « Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit. » C'est-à-dire déjà. Et ici, c'est un verset difficile à comprendre, mais ici, il est en train de regarder même depuis l'éternité passée, on a cette relation entre les membres de la Trinité. On voit le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Et on voit cette soumission de Jésus au Père, mais on voit aussi une égalité parfaite. Et on voit qu'il y avait eu un décret qui a été fait. David a écrit ce psaume 1000 ans avant Jésus. Mais déjà, un décret qui a été annoncé. Et l'Éternel m'a dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Encore un verset un peu difficile à comprendre, mais quand nous regardons le Nouveau Testament, nous voyons que ça concerne le Seigneur Jésus. Ça concerne sa naissance, oui, ça concerne l'incarnation, ça concerne aussi la résurrection. Peut-être dans une étude plus tard, on peut préciser comment on peut savoir cela, mais chaque fois que nous voyons ce verset cité dans le Nouveau Testament, soit ça se réfère à l'incarnation, soit à la résurrection. Et chaque fois, les apôtres sont en train de désigner que voilà cette phrase, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » C'est une déclaration de Dieu depuis l'éternité que voici l'incarnation, voici que Jésus, dans la résurrection, qui domine sur toutes choses. Et la suite dans versets 8 et 9, c'est cette déclaration du Père au Fils. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Et nous savons l'accomplissement de cela, c'était juste après parce que Jésus lui-même a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et il a dit, juste avant cela, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sous la terre. Vous voyez? Il a dit alors, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Tout pouvoir lui a été donné. Ça revient ici. « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. » Ça, c'est une verset tellement encourageant pour nous, les croyants, parce que nous voyons que ce promesse a été donnée au Fils, que l'héritage lui sera donné, les nations lui sera donné. Et maintenant, Jésus nous dit, allez, faites de toutes les nations. Vous voyez le lien? Nous pouvons aller avec cette assurance que quand nous donnons l'évangile aux autres, déjà, c'est promis que les gens vont accepter. Les gens seront son héritage, les gens qui vont accepter Jésus. Même les extrémités de la terre sont dans la possession de Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ qui nous dit, mais allez, faites de toutes les nations des disciples. Pour ceux qui n'acceptent pas, nous voyons verset 9, tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase du potier. C'est ça, ça c'est l'autre côté de soumission. Ceux qui soumisent à Christ et acceptent Jésus comme le Seigneur et Sauveur, ils ont la vie éternelle, ils sont maintenant appelés même fils de Dieu. Ils ont ce privilège d'être membres du royaume de Dieu. Mais ceux qui rejettent, c'est ça l'autre côté. Et il termine avec cela en disant dans le verset, verset 10, « Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. » C'est ça, face à la possibilité de la colère de Dieu, face à la possibilité d'un Dieu qui demande une soumission et une possibilité de sa colère qui tombe, un jugement qui tombe à ceux qui ne rejettent pas, il termine avec les encouragements. Il termine avec les impératifs. Et il dit, maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Il s'adresse au roi. Et ils disent, mais écoute, conduisez-vous avec sagesse. Vous êtes devant un Dieu qui domine. Il faut avoir la sagesse ici. Ne rejette pas si facilement votre Dieu. Conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre. Voici ceux qui sont en train d'exercer cette position de juger les autres. Ils demandent à eux, recevez l'instruction. Servez l'Éternel avec crainte. Réjouissez-vous avec tremblement. Tremblement. Et il termine en disant, baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Baisez le Fils. Que signifie baiser le Fils? On baise en Orient la main des monarques ou le bord de leurs vêtements. Et le baiser était un signe de soumission, parfois même adoration. Alors, que faut-il faire? Pour nous les croyants, nous devons commencer chaque jour avec simplement ce prière de soumission à notre Dieu. Une soumission, oui, motivée par la foi, sachant que Dieu, il a voulu la meilleure chose pour nous. Et nous devons être soumis, mais nous voulons être aussi soumis. Et c'est là où nous pouvons simplement commencer le jour et même commencer maintenant en train de dire, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Je consacrerai ma vie à toi. Pour le non-croyant, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais fléchissez le genou devant Christ. Le psaume termine avec cette phrase, « Heureux tous ceux qui se confient en lui. » Dieu offre le salut. Il donne les preuves d'un salut. Quand on voit la vie de notre Seigneur Jésus, c'était une vie parfaite. Quand on voit sa compassion, c'était une compassion parfaite. Quand on voit les miracles, on sait que Jésus n'est pas simplement un homme. Et quand on voit Jésus en train d'affirmer qu'il est le Dieu Tout-Puissant, quand il a dit, voici moi et le Père, nous sommes un, et les gens commencent à vouloir le tuer, on sait que Jésus était en train d'affirmer qu'il était Dieu. Dieu a donné toutes les preuves nécessaires pour vous de croire au Seigneur Jésus et de croire que ce qu'il a fait sur la croix, c'était un sacrifice parfait pour vous. Il a versé son sang pour le pardon des péchés Et ce qu'il demande, c'est simplement fléchissez les genoux devant Jésus. Alors, il est impossible de frustrer le but éternel de Dieu en Jésus-Christ. La meilleure chose alors à faire, c'est de simplement être soumis à Jésus-Christ. Il disait, conduisez-vous avec sagesse, recevez l'instruction, servez avec crainte, réjouissez-vous avec tremblement, mais baisez le Fils, embrassez Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Philippiens 2, versets 7 à 11 nous dit que Jésus s'humiliait lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sous la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Tout genou fléchira devant Jésus-Christ. J'espère qu'aujourd'hui sera le jour où vous pouvez aussi fléchir les genoux devant lui. Et pour nous, aide-nous, Seigneur, je prie. Et vous pouvez aussi prier, aide-nous d'être soumis à ta volonté. Prions. Seigneur, nous prions cela ce matin. C'est toi qui domines, c'est toi qui es au-dessus de toutes choses. Et nous te remercions du fait que tu as pouvoir pour nous tout ce dont on a besoin dans ton Fils Jésus-Christ. Et tu as pourvu un salut, tu as pourvu une joie et une paix immesurables. En lui, nous avons l'assurance d'un amour qui n'a pas des dimensions. Et nous te remercions du fait que tu as pourvu ce salut. Et je prie pour ceux qui n'ont pas encore sauvé, qu'aujourd'hui soit le jour de leur salut, qu'aujourd'hui soit le jour où ils se mettent à Jésus-Christ et à ce salut qui se trouve en lui. Et Seigneur, pour nous, parfois, Seigneur, nous sommes là devant ta volonté et nous questionnons et nous voulons être rebelles. Et pardonne-nous, Seigneur, aide-nous ce matin d'aligner encore nos volontés à ta volonté. Et Seigneur, merci pour ce son qui nous encourage aussi du fait que tu domines. Et malgré les choses qui sont autour de nous, nous pouvons avoir une confiance entière en toi. Aide-nous d'être ceux qui sont heureux, qui se confient en toi. Et nous prions au nom de Jésus. Amen.